autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour mettre le vide en question aujourd'hui. Oui, le vide, ce qui reste quand on a tout enlevé, même ma voix, non, j'espère qu'elle va rester. Mais le hic, si on enlève tout, c'est qu'il ne reste plus rien, pas même le vide. Alors peut-on réellement faire le vide ? Et d'abord, existe-t-il vraiment ? Question qui hante les philosophes comme les physiciens aujourd'hui au bord du vide quantique. Que se cache-t-il derrière ces vides, qui sont souvent bien pleins ? Notre invité, le physicien et philosophe Étienne Klein, a cherché à répondre à l'appel du vide dans son dernier essai paru aux éditions Actes Sud. Ce qui est, sans être tout à fait, essai sur le vide à partager ensemble autour de la question pourquoi faire le vide et surtout comment. Bienvenue. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. C'est toujours un grand plaisir de recevoir le physicien et philosophe des sciences que vous êtes.
Partagé, plaisir partagé.
Directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, auteur à succès de Matières à contredire et de nombreux ouvrages sur le facteur temps, les origines de l'univers ou les secrets de la matière. On vous savait passionné, Étienne Klein, par la question du temps. Et voilà que vous nous proposez un saut dans le vide avec ce nouvel essai sur le vide que vous venez de publier chez Actes Sud, ce qui est sans être tout à fait. Oula, ça commence bien. Pourquoi le vide, Étienne Klein ? De quoi parle-t-on d'ailleurs quand on parle du vide ?
En fait, c'est lié à la question du temps, parce que il y a des mots comme ça qui sont des mots très anciens. Espace, vide, matière, temps, esprit, énergie, qui sont des mots qu'utilisent les scientifiques depuis toujours. Mais ce qu'on met derrière ces mots ne cesse d'évoluer au gré des révolutions scientifiques. Par exemple, le mot temps, c'est le même que du temps d'Aristote, par exemple. Mais ce qu'on met derrière ce mot a été modifié par les travaux de Newton, puis d'Einstein, puis des physiciens contemporains. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur le vide, sur le temps, au bout d'un certain temps, ça m'a un peu lassé, puisque j'avais l'impression de me répéter. Et du coup, je me suis dit, mais le vide, c'est un mot qui a le même destin que le mot temps, c'est-à-dire qu'on garde certaines expressions qui sont très anciennes, comme la nature hors du vide, mais ce qu'on met derrière le mot vide n'a cessé d'évoluer. Et aujourd'hui, c'est un des grands enjeux de la physique contemporaine. Qu'est-ce que le vide ? Si on savait le dire avec précision, il y a toutes sortes de questions qui se posent aujourd'hui qui seraient résolues.
D'ailleurs, la nature n'a pas horreur du vide. Enfin, on y viendra puisque c'est le titre d'un
nouveau...
Ça dépend duquel. Et voilà, c'est jamais simple en fait avec le vide. Alors ce livre, vous le dédiez, Étienne Klein, à la mémoire d'Aladine Lacroix. C'est une de vos voisines, une vieille dame qui vous a, si j'ose dire, mis ou remis sur la piste du vide en vous conseillant, jolie formule, de faire le vide, c'est ça ?
Oui, j'ai dédié le livre à sa mémoire puisque malheureusement elle est décédée depuis. Mais je la rencontrais souvent dans le hall de l'immeuble et on discutait de choses et d'autres. C'était une sorte de conversation ininterrompue. Quand on se retrouvait, on prolongeait la discussion qu'on avait laissée la fois précédente. Et un jour, je devais avoir l'air d'être un peu fatigué. Elle m'a dit, Étienne, vous devriez apprendre à faire le vide. Et la question du vide qui intéresse les physiciens depuis toujours, elle m'intéressait aussi. Mais le fait de dire cette phrase, de l'entendre chez moi, a provoqué une sorte de sursaut intellectuel. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire faire le vide ?
Est-ce que c'est possible ?
Et d'ailleurs, l'expression faire le vide est paradoxale parce que le verbe faire, c'est un verbe d'action. Et donc, si faire le vide, c'est ne rien faire, c'est-à-dire dès que vous commencez à le faire, il faut cesser de le faire puisque c'est rien qu'il s'agit de faire. Et donc, je me suis dit, c'est bizarre comme expression. Puis, assez vite, je me suis
rendu
compte.
Du coup, ça a plu à l'amateur d'anagrammes aussi,
voilà,
de mots.
De jeu avec les mots. Mais le problème, on voit bien que ce n'est pas le verbe faire qui le porte, c'est le mot vide, le substantif vide. Qu'est-ce qu'il y a derrière le vide ? Alors, ça m'a amené à enquêter, à relire les philosophes grecs qui, en Occident, ont posé la question du vide en premier. Et ça a été très long, je m'en suis rendu compte. Il a fallu plusieurs siècles pour distinguer la notion de vide de la notion de néant.
Et oui, parce que si on demande une définition du vide, peut-être commencer par dire ce que le vide n'est pas. Et le vide, c'est pas le néant.
Alors
c'est pas le rien.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que le néant, c'est une idée qu'on peut avoir, mais qui en même temps est impensable. Je veux dire par là que dès que vous essayez de penser le néant, de vous figurer l'absence de toute chose, le non-être ou le néant, que vous le vouliez ou non, votre esprit, votre entendement, va le transformer en quelque chose de particulier. Vous allez associer au néant que vous tentez de penser une matérialité, une spatialité, une substantialité qu'en tant que néant, il ne peut pas avoir. Ça veut dire que quand vous pensez le néant, vous en faites autre chose que lui-même. Bergson disait, le philosophe Henri Bergson disait, le néant est une idée destructrice d'elle-même, puisque dès qu'on le pense, on en fait quelque chose qu'il ne peut pas être.
Ce n'est pas le néant. Et donc,
penser le rien n'est jamais penser à rien. Voilà. Et à partir du moment où...
Et penser le vide n'est jamais vide, non
oui,
plus.
Oui, et du coup, le vide devient pensable à partir du moment où on le distingue du néant, en disant qu'il a une dimensionnalité. Le vide est lié à l'espace. Il est lié à la notion de volume. Et d'ailleurs, dans le livre, je cite une lettre incroyable de Léonard de Vinci, lettre qui date de la fin du XVe siècle. Et il explique à son correspondant qu'en effet, le vide et le néant se distinguent par le fait que le vide contient l'espace, alors que le néant ne contient même pas l'espace. Et à partir du moment où vous pouvez associer le vide à la notion d'espace, vous pouvez vous le représenter, la question étant de savoir de quoi est-il fait et que contient-il, bien qu'on l'appelle le vide.
Que contient le vide? Autour de cette vertigineuse question, allez, je propose un éclairage tout aussi vertigineux. C'est celui du poète et physicien Michel Cassé, que vous connaissez bien. Michel Cassé, auteur lui aussi d'un essai sur le vide et sur l'éternité. Mais accrochez-vous, car disons que ça va très loin. Hein.
C'est Michel Cassé.
C'est Michel Cassé, exactement.
Mais d'abord, le vide n'est jamais vrai, le vide est faux.
Il n'y a pas de vrai vide.
S'il était vide, il serait identifiable au néant, et donc comme il contient de l'énergie, il est faux.
Donc c'est toujours du faux vide.
Ah, toujours.
Alors où est-ce qu'il y en a le plus du faux vide?
Du faux vide, il y en a partout, vous êtes dans le faux vide. Il est...
Là, maintenant
ah, oui, oui.
Nos auditeurs aussi?
Ah, partout, oui, oui. Donc il est universel, intemporel, ce serait la meilleure approximation, je dirais presque, de l'artiste cosmique par excellence.
L'artiste cosmique.
Ben oui, parce que c'est l'élément créateur. La lumière descend de lui. C'est lui qui met l'espace en expansion. Donc, il est le père de l'espace, il est le père de la lumière, il est le père de la matière.
Bon, mais c'est quoi? C'est Dieu, le vide, alors?
C'est la meilleure approximation de Dieu en science. Si
ça serait le vide. Ben voilà, oui. Un scoop.
Sauf qu'il est incréé. Et encore. Non. Il procède d'un autre vide. Il a été... Les vides, en fait, se transforment les uns dans les autres. Il y a eu un vide père, un vide mère. Donc, il a été précédé par un vide parent. Père ou mère, j'ai jamais su discerner le sexe du vide.
Le sexe du vide. Mais jusqu'où nous entraîne Michel Cassé, physicien et poète? Étienne Klein, c'est vraiment un saut dans le vide. Le vide qui serait la meilleure approximation de Dieu en science.
Une question que je n'ai pas tranchée et que d'ailleurs je n'ai pas posée, c'est celle du sexe du vide. Mais dire que le vide est la meilleure approximation de Dieu, ça peut s'entendre parce que l'anagramme de vide, c'est Dieu. Le U et le V,
vide,
en latin,
Dieu.
Le U et le V, c'est la même lettre. Donc les lettres qui forment vide sont les mêmes lettres qui forment Dieu. Mmh. Bon. Ensuite, de la part de Michel Cassé, ce n'est pas très étonnant, puisque l'anagramme de Michel Cassé, c'est justement Michel caché.
Ah d'accord, donc en fait, donc, il glisse un peu Dieu partout.
Il cache Dieu dans ses propos de façon plus ou moins explicite. Là, c'était quasiment explicite. Bon. Alors simplement, il pose une question qui est fondamentale, c'est tous les vides sont faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le vide est quelque chose,
c'est plus du
de
vide.
Particulier, eh bien, il est précisément ce qu'on ne doit pas retirer quand on fait le vide, parce que si on retire tout, c'est le néant qu'on trouve. Donc le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide.
Mais est-ce qu'il existe le vide?
Alors ça dépend duquel. Par exemple, la question de savoir s'il existe a été posée par les Grecs, par Aristote notamment, qui s'opposait à des philosophes comme Démocrite, qui croyaient à l'existence du vide. Et Aristote conteste la possibilité que le vide existe en disant « S'il n'y avait que du vide, le mouvement des corps ne serait pas possible. Donc le vide n'existe pas. » Et puis ça a donné la formule « La nature a horreur du vide ». C'est-à-dire que la nature est dotée de sentiments de haine à l'égard du vide qui fait que lorsque le vide menace d'apparaître, eh bien la matière qui est autour va coloniser le volume dans lequel il est en train d'apparaître pour empêcher qu'il se manifeste. Par exemple, les Grecs pensaient que si on prend deux plaques métalliques bien planes et bien lisses, on peut les faire facilement coulisser l'une sur l'autre. Mais si on veut les écarter l'une de l'autre, eh bien en le faisant, on crée un espace vide entre les deux. Et comme la nature a horreur du vide, elle demande aux deux plaques de bien vouloir opposer la plus grande résistance à ce mouvement d'écartement pour empêcher que le vide qui pourrait apparaître se manifeste. Et donc on pensait que la nature était dotée de sentiments qui agissaient comme des forces physiques. Et au XVIIe siècle, il s'est passé une révolution avec des génies comme Galilée en Italie, Torricelli autre Italien qui était l'assistant de Galilée, puis Blaise Pascal, entre autres en France, qui vont faire des raisonnements et puis surtout faire des expériences qui vont montrer que, en fait, ce qu'on appelle l'horreur que la nature a pour le vide est simplement lié à la pression atmosphérique qu'on appelait la pesanteur de l'air. Donc il y a une pression de l'air qui appuie sur toutes les surfaces qui sont au niveau de la mer. Par exemple, dans ce studio, sur 1 mètre carré de surface, il y a une pression qui est l'équivalent de 10 tonnes par mètre carré. C'est le poids, c'est la pression de l'air. La pression atmosphérique, c'est l'équivalent de 10 tonnes par mètre carré. C'est une pression énorme que nous ne ressentons pas parce que notre corps a une pression interne qui équilibre cette pression extérieure. Mais du coup...
n'a rien à voir avec le vide.
Absolument. Mais si vous voulez faire le vide dans un petit volume, le moindre orifice dans ce volume va permettre que l'air, poussé par la pression extérieure, va entrer dans le vide, dans le volume plutôt, et empêcher que le vide se manifeste.
Et donc le vide, il est plein, en fait.
Donc en fait, il peut être rempli, en tout cas, et puis lui-même n'est pas rien. C'est-à-dire, il est plein d'espace, déjà. En tout cas, dans la physique classique, le vide, c'est déjà de l'espace. Et dans cet espace peuvent se trouver d'autres ingrédients qui dépendent de la théorie physique qu'on va prendre comme référence. Par exemple, si vous prenez comme théorie physique la physique de Newton, donc la théorie de la mécanique ou bien celle de la gravitation, bah vous lisez les équations, vous écoutez Newton qui vous dit dans l'univers, il y a 3 sortes de choses. Il y a l'espace, il y a le temps et puis il y a les objets physiques que Newton se représentait comme des petits corps matériels. Qu'est-ce que c'est que le vide pour Newton? C'est ce qui reste quand on a retiré tous les corps matériels.
Donc c'est l'espace,
c'est c'est l'espace absolument vide, sans rien à l'intérieur, pas le moindre atome. Et puis le temps qui passe de façon complètement indifférente, puisque de toute façon, dans cet espace vide, par définition, rien ne se passe. Mais si vous prenez la physique quantique, qui a été
à
une autre échelle, qui s'élabore au XXe siècle pour décrire le comportement des particules et notamment leurs interactions, vous regardez les équations, elles vous disent que quand vous avez retiré tous les objets matériels, les particules, donc les électrons, les quarks, les neutrinos, la lumière.
Même les plus infimes particules, voilà, hein, les briques élémentaires.
Vous enlevez toutes les particules. Ben, les équations vous disent qu'il reste alors l'espace-temps, dans lequel il n'y a pas rien. Il y a ce qu'on appelle des champs quantiques dans l'état de plus basse énergie. Et ces champs quantiques, ils sont associés, d'après les équations, à des particules qu'on appelle des particules virtuelles. Elles sont virtuelles au sens où elles sont présentes, mais pas complètement réelles.
Elles sont potentielles.
Elles sont potentielles au sens où elles n'ont pas suffisamment d'énergie pour exister pleinement. Einstein avait introduit cette notion d'énergie de masse. C'est l'énergie qu'a une particule du seul fait qu'elle a une masse. Elle vaut le produit de la masse, m, par le carré de la vitesse de la lumière. E égale mc2, on a tous entendu cette formule. Et bien, les particules qui sont dans le vide quantique, elles sont là, mais elles ont moins d'énergie que leur énergie de masse. Et donc, elles ne sont pas tout à fait réelles. Elles sont un peu fatiguées. Et si on leur donne l'énergie qui leur manque, par des expériences de physique, on peut les faire sortir du vide. Et donc, le vide est plein, mais il est plein de choses qu'on ne peut pas retirer.
Est-ce que c'était ce vide-là qui avait aussi à l'origine, hein, parce qu'autour de cette question du vide, je vous propose de poursuivre sur un versant, on va dire, carrément métaphysique, avant d'affronter le vide quantique dont vous nous parlez, avec une nouvelle question soulevée par le professeur et administrateur du Collège de France, Thomas Romer, titulaire de la chaire des milieux bibliques et du futur Institut des civilisations. Écoutez sa question, elle est pour vous, Étienne Klein.
Alors, est-ce qu'on peut penser le vide d'une manière absolue? Parce que ce qui est intéressant, dans le récit biblique, on dit lorsque Dieu commence à créer le monde, elle était tohu vabohu, donc elle était chaotique. Mais en même temps, ce n'est pas une création à partir de rien, parce qu'on dit il y a les ténèbres, il y a les eaux, il y a déjà quelque chose avec lequel, en fait, le Dieu créateur va bricoler. Qu'est-ce que c'est pour le physicien, le vide?
À vous de jouer, Étienne Klein, hein, sur nos origines de vie, évidemment.
Et il y a des physiciens qui ont développé des théories selon lesquelles l'univers tel que nous le connaissons est apparu à partir de fluctuations, comme on dit, du vide quantique. Donc le vide quantique était là de toute éternité, et ce sont ces fluctuations d'énergie qui ont engendré l'univers dans lequel nous sommes, qui lui-même, lorsqu'il se sera refroidi, engendrera un autre univers, etc. Maintenant, vous voyez bien que quand on parle de l'origine de l'univers... Oui. Si on prend les mots au sérieux, ça veut dire qu'on prétend décrire la transition qui fait passer de l'absence de toute chose, donc du néant, à l'existence d'une première chose. Et à chaque fois qu'on tente de décrire ce processus, on prononce des phrases qui contredisent l'idée que l'univers a une origine. Par exemple, si je dis « l'origine de l'univers, c'est par exemple le vide quantique, c'est pas rien, c'est quelque chose », ou bien c'est une collision de trous noirs, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est un océan primordial, ou bien c'est un œuf primitif, ou bien c'est un chaos, un tohu-bohu, etc. Vous voyez que vous nommez l'origine de l'univers en désignant quelque chose qui aurait existé en amont de toutes les autres. Mais ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours existé. Ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc l'univers n'a pas d'origine. Il y a toujours eu quelque chose. Ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres n'a pas toujours été là.
Et donc il y a quelque chose avant. Il y a une origine.
Ça veut dire qu'elle est elle-même l'effet d'une autre chose qui l'a précédée. Et donc ce n'est pas l'origine.
Donc c'est ça le paradoxe. Vous nous dites que c'est impossible. Enfin, c'est le paradoxe.
On est pris dans des pièges de langage, puisqu'à chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers, d'une certaine façon, on la contredit.
Mais on est pris dans des pièges de langage, souvent, quand on veut parler, faire passer, expliquer les sciences, notamment la physique quantique. On dit des mots sans être sûr de leur sens. Vous jouez beaucoup avec les mots, vous jouez des anagrammes renversantes d'ailleurs, vertigineuses et renversantes. À chaque fois, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un anagramme pour le titre de votre livre, Ce qui est sans être tout à fait ?
Évidemment. Il serait absurde de faire un livre dont le titre ne soit pas une anagramme. Donc l'anagramme de ce qui est sans être tout à fait, c'est casse-tête antique, tout frais. Ce qui est exactement le projet, puisque le vide a été un casse-tête pour les philosophes de l'Antiquité, et tout frais parce qu'il faut réactualiser ce questionnement en tenant compte des résultats de la physique contemporaine. Mais comme vous le dites vous-même, c'est pas simple parce que la physique ne se construit pas par le langage. Les équations sont du langage mathématique très particulier et elles ne parlent pas, les équations. Et donc,
notre esprit, il a besoin de mots. Hein,
voilà, si elles pouvaient parler, elles diraient des choses que notre langage ne dit pas déjà. Et donc, pour dire avec des mots quotidiens ce que la physique nous apprend par des équations, il faut faire un travail critique du langage. Il faut travailler le sens des mots. Il faut interroger le vocabulaire pour vérifier qu'on n'installe pas des contresens dans nos façons ordinaires de dire. Parce que le langage ordinaire ne dit pas déjà la physique.
Et il faut aussi regarder le langage ou les mots sous tous leurs aspects possibles. Il y a quand même cet aspect-là, même le vide sur lequel vous travaillez. Évidemment qu'il y a plein de jeux de mots. Peut-on faire le vide ? Non, on ne peut pas faire le vide. Qu'est-ce que le vide ? Est-ce qu'il est plein ? Ça permet aussi de faire avancer votre réflexion.
Absolument, parce que moi, plus je vieillis, plus je me dis que finalement, mon sujet de recherche, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas non plus la physique, c'est le langage. Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots et comment rendre justice à ce que nous savons par la science dans notre façon de parler.
Petit exercice proposé par un de nos auditeurs à Niamey au Niger, Aminou Sani. Il voudrait vous demander, Étienne Klein, de quoi est rempli le vide interstellaire ? Et voilà. C'est la question.
Ah, c'est la question.
Oui, on va pas l'entendre.
Je m'apprêtais à saluer votre auditeur du Niger.
Bah, vous pouvez le saluer, hein, Aminou, il est à Niamey.
Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le vide interstellaire ? Bah, il y a déjà l'espace. Il y a même l'espace-temps. Si on est en relativité générale, la vraie structure du monde, c'est l'espace-temps. Et cet espace-temps, il n'est pas complètement vide au sens où il contient quelques atomes résiduels, il contient un peu de rayonnement cosmique, et puis surtout, il contient un rayonnement qui est invisible à nos yeux, mais qui ne s'éteint jamais, qu'on appelle le rayonnement fossile, autrement appelé le fond diffus cosmologique.
Le tout premier, hein, pour la question des origines, le rayonnement depuis les débuts de l'univers.
Alors, en fait, c'est un rayonnement qui s'est libéré de la matière 400 000 ans après le Big Bang. Avant, il y avait trop de densité pour que la lumière puisse se propager librement. Et au bout de 400 000 ans, l'univers s'est refroidi, la température est de 4000 degrés, les atomes se forment et la lumière peut traverser l'espace sans être perturbé par la matière qu'il contient. Et donc, c'est la libération de la lumière par rapport à la matière. Et ce rayonnement s'est refroidi. Aujourd'hui, il existe encore, il est partout présent. On peut l'analyser grâce à des satellites très, très particuliers. Mais il a une longueur d'onde tellement grande, ou si vous préférez, une fréquence tellement petite que nos yeux ne peuvent pas le voir. Donc en fait, l'espace, il est plein de ce vide rempli du fond diffus cosmologique.
Et est plein de ce vide, hein, c'est ça, hein,
exactement,
je vous cite. Hein.
Et plutôt le vide est plein de cet espace rempli de ce rayonnement.
Et d'ailleurs, si vous préférez.
Comme la question vient du Niger, c'est marrant parce qu'en latin, il y a deux mots pour dire le noir. Il y a le mot « ater » qui a donné « atros » et « atrabilaire ». C'est un mot négatif qui désigne le noir mat, le noir éteint. Et puis il y a un autre mot qui est « niger ». Niger, c'est le noir brillant, c'est le noir lumineux. Mmh. En fait, la nuit, le ciel est noir, mais en fait, il est brillant, simplement nos yeux ne peuvent pas le voir. Donc on pourrait dire que nos yeux, parce qu'ils ne voient pas la lumière invisible, dénigrent la nuit au sens où ils lui retirent son éclat. Mais des détecteurs qui voient dans toutes les longueurs d'onde sont capables de voir que dans la nuit, dans l'espace de la nuit, il y a toutes sortes de choses qui se propagent, qui pour nous sont invisibles.
Autour de la question, peut-on faire le vide? Vous y arrivez très bien tout de même, Étienne Klein. Je propose de l'approcher en musique maintenant, avec le compositeur Olivier Mélano, musicien, improvisateur, passionné de physique quantique, que vous inspirez d'ailleurs beaucoup, Étienne Klein. Du coup, Olivier Mélano a tenu à vous offrir son album. Je propose d'en écouter un extrait avec ce morceau de circonstance, Hold the Void, tenons le vide. Olivier Mélano sur RFI, en musique d'abord, et puis ensuite au micro de Caroline Fillette, rien que pour vous, Étienne Klein.
Merci beaucoup.
Écoutez RFI autour de la question.
C'est marrant parce qu'avant de plonger un peu là-dedans, le vide c'était quand même quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Sur justement en tant que musicien, c'est souvent là que j'allais puiser ce qui tombait en fait. On va dire que soit dans la musique improvisée, soit dans la composition, c'est souvent à cette source là que j'allais puiser le vide. Et pour moi, c'était le sujet le plus vaste, le plus important, le plus riche, etc. Et la façon dont la physique quantique parle du vide, enfin le vide quantique, ou l'énergie noire, ou le point zéro, l'énergie du point zéro, tout ça, c'est des choses dans lesquelles, effectivement, si on considère que beaucoup d'informations se trouvent là-dedans, c'est une source aussi inépuisable dans laquelle on peut aller puiser. Et surtout, ça, c'est tellement beau, je trouve, que se couvre la physique quantique. Et je trouve ça complètement fou qu'on n'en parle pas tout le temps et que ce ne soit pas en haut de tous les journaux télévisés de tous les jours et qu'on ne passe pas 15 minutes à parler de ça tout le temps. Ça fait un siècle qu'on sait à peu près tout ce qu'a ouvert la physique quantique et on en parle si peu que je trouve ça complètement fou.
L'enthousiasme d'Olivier Mélano, compositeur, musicien, improvisateur au micro de Caroline Fillette, à qui il a confié pour vous cet album duquel on a tiré Hold the Void d'Étienne Klein.
Je suis très, très touché. En plus, il parle très très bien de physique quantique. Il a l'air d'avoir tout compris quand il parle d'énergie du point zéro, de l'énergie du vide quantique.
Ça l'inspire en tout cas, puis il dit pourquoi il n'y en a pas plus partout, tout le temps.
Bah, il y a quand même des gens qui en parlent, en tout cas qui essaient d'en parler, et vous les invitez, donc tout va presque pour le mieux dans le meilleur des mondes.
C'est marrant parce que pour lui, hein, je crois, pour Olivier
d'abord,
Mélano.
Olivier Mélano, il a une sorte d'anagramme qui est un démenti de son métier. Parce qu'Olivier Mélano, ça donne violon mal relié.
Ah, oh, dommage.
Alors qu'il le relie très bien. Et simplement, il me semble que le vide quantique, c'est un peu l'équivalent du silence pour un musicien. Ouais. C'est-à-dire que le silence qui sépare deux notes, en fait, il est habité, il est encore habité par la note précédente qu'on n'entend plus, mais qui continue à coloniser le vide qui la suit. Et puis, si on connaît la musique, le silence qui précède une note, il contient déjà l'ombre de la note. Enfin, il y a cette chose, on disait toujours, le silence qui suit du Mozart, c'est encore du Mozart. Le silence qui précède les Rolling Stones, c'est déjà les Rolling Stones. Et donc, la notion de silence en musique est une notion habitée, un peu comme la notion de vide quantique pour les physiciens.
Et qui permet d'ailleurs, quand vous le dites comme ça, de comprendre, enfin d'appréhender un peu ce que peut être ce vide plein, ce vide virtuel, ce vide potentiel.
Oui, le vide, c'est le résultat d'une épuration. Par exemple, si vous regardez la suite de tableaux que Pablo Picasso a peint entre décembre 1945 et quelques mois plus tard, en 1946, il a peint des taureaux, le même taureau. Mmh. Et le premier tableau, c'est un tableau, c'est une peinture très, très figurative avec un taureau très massif. C'est presque une photo d'un taureau. Il est massif, corpulent, tous les détails sont là. Et puis une semaine plus tard, il a peint un autre taureau, le même et d'une autre façon. Les lignes sont plus épurées. Et puis petit à petit, il va faire 12 tableaux, je crois. Et peu à peu, il débarrasse le taureau en question de toute sa graisse ontologique. Il l'épure de plus en plus. Et à la fin, il n'y a plus qu'un dessin qui contient quelques lignes, quelques courbes, qui suffisent à ce qu'on reconnaisse qu'il s'agit d'un taureau. Mais si par la pensée vous retirez un seul de ses traits, vous ne voyez plus que c'est un taureau. Autrement dit, il a peint ce qu'on pourrait appeler l'essence du taureau, sa tauroïcité, si on peut dire, c'est-à-dire ce par quoi on le reconnaît et qui lui est essentiel. Si vous retirez un élément, il n'y a plus de taureau.
C'est-à-dire
le vide,
aussi...
le vide quantique, c'est ça. C'est le minimum que doit contenir l'espace, potentiellement, pour que toute la matière telle que nous la connaissons se manifeste.
Mais ça me fait penser aussi à chaque dessin qu'on voit. Si on voit un dessin d'une maison, finalement, c'est autant le vide qui est à l'intérieur que les traits qui nous font signe que c'est une maison.
Absolument. Ou même les émoticônes qu'on s'échange dans nos SMS ou dans nos courriers sont des symboles très épurés qui signifient quand même quelque chose. Et c'est presque un discours minimal qui néanmoins porte l'entièreté du message qu'on veut transmettre.
Autour de la question du vide, de tous les vides et du vide quantique en particulier, on y revient. Nouvelle question pour vous, Étienne Klein, soulevée par Hélène Courtois, géniale astrophysicienne, découvreuse du supercontinent céleste Lagnakea qui abrite notre Voie lactée. Écoutez la question d'Hélène Courtois. Elle est pour vous, Étienne Klein.
Alors, Étienne, j'ai une question, puisque tu t'intéresses au vide. Une des grandes questions de la cosmologie, bien sûr, c'est d'où vient l'énergie noire, l'énergie sombre, celle qui permet l'accélération de l'expansion. Certaines personnes pensent qu'on pourra la relier un jour aux fluctuations quantiques du vide, c'est-à-dire à l'énergie qu'il y a dans le vide. Qu'en penses-tu ?
Qu'en pensez-vous, Étienne Klein ?
Je remercie Hélène pour cette question. Évidemment, si je connaissais la réponse... je serais candidat au prix Nobel, ouais. Ce qui est loin d'être le cas. Et si elle avait la réponse, elle pourrait l'avoir encore plus légitimement que moi, puisqu'elle a fait des travaux qui ont été décisifs en cosmologie. Mais en gros, comme vous le savez, il y a deux théories physiques fondamentales aujourd'hui. La physique quantique, qui ne décrit pas la gravitation, mais décrit les autres interactions.
Dans l'infiniment petit.
Voilà, donc avec elle, il y a un vide quantique qui est truffé d'énergie. Et puis, il y a une autre théorie qui décrit seulement la gravitation, qui est la théorie d'Einstein, qu'on appelle la relativité générale, dont l'espace-temps n'est pas le même. Et donc, le vide quantique n'a rien à voir avec le vide de la relativité générale. Donc, notre physique vit avec deux vides différents. Ce qui pose un problème, parce que s'il y a deux vides différents, ça veut dire que l'un contient l'autre. Mais s'il contient l'autre, c'est qu'il n'est pas vide.
Il est plus vide.
Donc, vous voyez qu'on tombe sur des problèmes de vocabulaire, de cohérence sémantique avec cette histoire du vide.
Maintenant, et qu'on comprend aussi le grand souci des physiciens, le grand défi des physiciens aujourd'hui.
Et donc, ce à quoi fait allusion Hélène Courtois, c'est qu'on a découvert il y a peu de temps, finalement, qu'il y a une accélération de l'expansion de l'univers. Et on pense que le moteur de cette accélération, c'est une chose étrange qu'on n'a pas encore complètement identifiée, qui s'appelle l'énergie noire. De quoi est-elle faite ? Il y a plusieurs candidats possibles, la constante cosmologique, ou bien le vide quantique avec son énergie, à condition que le vide quantique gravite, c'est-à-dire qu'il soit soumis à la gravitation, ce que nous ne savons pas. Et donc là, il y a quelque chose qui vient marquer le fait que ces deux théories de référence, en fait, se contredisent quand on essaie de les associer l'une à l'autre, de transporter les concepts de l'une dans le formalisme de l'autre, on tombe sur des difficultés.
Donc le vide résume vraiment... toutes ces questions, enfin, contient pour le coup toutes ces questions-là.
C'est la zone de contact qui contient finalement tous les problèmes de cohérence que nous rencontrons lorsque nous essayons d'unifier la physique quantique et la théorie d'Einstein de la gravitation.
Et si le vide, c'était aussi quelque part ce qui cachait notre ignorance, finalement ? Est-ce qu'est vide ce qu'on ne connaît pas encore ?
Alors, l'inconnu... alors, évidemment... cela dit, il ne faudrait pas laisser entendre qu'on ne sait rien du vide.
Oui.
Le vide quantique, on peut le...
Alors, qu'est-ce qu'on sait du vide ?
On peut l'explorer, on peut le toucher.
On peut toucher le vide quantique.
Ah bon. Mais on peut l'atteindre, entrer en contact avec lui. Par exemple, quand vous faites une collision de protons, des particules donc chargées...
Dans un
grand accélérateur comme celui du CERN à Genève, vous faites des collisions de très haute énergie qui, pendant un temps très court, dans un petit volume, vont concentrer l'énergie transportée par ces protons. Et cette énergie va être absorbée par les particules virtuelles qui sont dans le vide quantique, qui du coup vont avaler l'énergie, devenir réelle, et ensuite sortir du vide au point qu'on pourra les détecter. Et donc on peut comme ça chauffer le vide.
Lui donner de l'énergie.
Lui donner l'énergie qui lui manque et rendre ses propriétés, ce qu'il contient, manifeste. Alors que quand il n'est pas chauffé, c'est un vide qui ne produit pas d'effet qui nous soit perceptible.
Mais donc le vide, c'est quoi ? C'est un germe ? C'est une attente ? C'est un potentiel ? On pourrait dire ça aussi ?
Pour moi, c'est le prologue de la matière, c'est-à-dire c'est l'univers des possibles.
L'univers des possibles, l'énergie du vide. Alors le vide, ça donne aussi le vertige, Étienne Klein. Et vous en êtes saisi parce que vous êtes vous-même alpiniste et que vous flirtez souvent avec les hauteurs où le vide est encore plus vide. Vous citez d'ailleurs dans votre essai sur le vide le formidable alpiniste Gaston Rebuffat, du Mont-Blanc jusqu'à l'Annapurna, ou plutôt des Alpes, jusqu'aux Dolomites. Gaston Rebuffat parle du vide et du vertige qui peut même saisir les alpinistes les plus chevronnés. Extrait de Gaston Rebuffat, extrait d'une archivina.
Il y a plusieurs raisons qui peuvent provoquer le vertige. Il y a, mettons, 5 personnes sur 100 qui ont le vertige tel qu'on vient d'en parler, et toutes les autres ont plus ou moins l'appréhension du vide. Le massif du Mont-Blanc est un massif granitique. Les massifs granitiques ne sont pas aussi verticaux sur de très grandes hauteurs que ne le sont les massifs calcaires, les Dolomites par exemple. Bon. Moi, je suis guide à Chamonix, donc dans un massif granitique. Eh bien, quand je vais dans les Dolomites, pendant les 2 ou 3 premiers jours, le long de ces parois calcaires, qui, elles, d'un seul jet, ça veut dire géométriquement, sans le moindre gradin, sont verticales et parfois en surplomb, et ça peut très bien se gravir, parce que le calcaire est plus fourni en prise que ne l'est, il est moins compact que ne l'est le granit. Eh bien, j'ai l'appréhension du vide. Il me faut 2 ou 3 jours pour que je prenne conscience qu'il y a ce vide sous mes pieds, pour que je prenne conscience comment je tiens, pourquoi je tiens. Et après, je ne dis pas que c'est un plaisir, mais c'est aussi quelque chose d'évoluer, d'enchaîner des jolis mouvements dans un grand vide.
Le plaisir d'affronter le vide. Vous voulez réagir déjà à ces propos?
D'abord, c'est magnifique d'entendre Gaston Rebuffat, qui est un de mes héros.
Ah, c'est un de vos héros.
Ah oui, bien évidemment. Et puis entendre sa voix, la précision de son vocabulaire, comment les alpinistes, quand ils parlent, sont précis et manipulent une langue très élégante. Ensuite, il dit beaucoup de choses. Là, il dit que, finalement, quand vous êtes dans le massif du Mont-Blanc, où il n'y a pas de verticalité absolue, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite pente, même, enfin une grande pente, mais on ne voit pas immédiatement en bas. Mmh. Et ça crée un rapport au rocher qui est très différent de celui qu'on a dans des falaises vraiment verticales. Ensuite, il parle du vide et on comprend dans ce qu'il dit que ce qu'il appelle le vide et dont on peut avoir peur, c'est ce dans quoi on peut tomber. Or, ce vide, comme on l'appelle, en fait, il est rempli d'air. Il est plein de gaz. D'ailleurs, les alpinistes parfois parlent du gaz pour parler du vide. Et donc, ils appellent vide ce dans quoi ils peuvent tomber, qui est beaucoup moins vide que ce qui est au-dessus d'eux. Par exemple, si vous êtes à 5000 mètres, eh bien, si vous tombez jusqu'au niveau de la mer, vous allez traverser plus de matière en chutant que si vous alliez de là où vous êtes jusqu'à la surface de la Lune.
C'est à propos de physicien, quand vous êtes alpiniste, vous ne pensez pas à ça.
Ce qu'on appelle le vide quand on est alpiniste, c'est ce qui est le moins vide dans l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que la gravitation, qui est cette force qui risque de vous faire tomber et contre laquelle vous luttez, est une force qui va polariser, orienter l'espace selon une certaine direction, alors que le vrai vide est au-dessus de vous.
Oui, le vide en dessous qui nous fait peur, il est bien plus dense que le vide au-dessus.
Oui, mais ce n'est pas une raison pour y tomber.
Bah, c'est ça, voilà. Est-ce que justement, alors cette attirance, entre guillemets, ou le fait que vous vous soyez coltiné, le vide, c'est une question de physicien, c'est une question de philosophe, c'est aussi une question d'alpiniste, vous êtes un vous d'être.
Oui, mais
c'est aussi une question
je comprends d'alpiniste, parfaitement hein. Ce qu'il dit. Lui, il a fait des ascensions en solo, ce qui ne m'est jamais arrivé. Moi, je pars toujours avec un guide en qui j'ai parfaitement confiance. Et quand vous êtes bien installé dans le vide, assuré, donc rassuré, il y a une forme de jouissance à contempler le vide dans lequel vous pouvez tomber, tout en étant parfaitement en sécurité. Ça provoque une sorte de... Il parle d'ivresse, je crois. Mmh. On pourrait parler de jouissance, qui est assez... je pense qu'il y a une addiction à ça quand on est alpiniste. On recherche un contact avec le vide qui soit le plus proche possible en restant platonique. Parce que si la relation de passion que vous avez avec le vide est une relation qui se consomme, bah c'est la chute.
C'est quoi votre relation avec le vide?
Comme disent les alpinistes, si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe.
D'accord. Donc, quel est votre rapport avec le vide, vous, Étienne Klein, qui est à la fois philosophe, physicien et alpiniste?
Moi, je pense qu'on doit distinguer le vertige de la peur du vide, de la peur de tomber. C'est trois choses différentes. De la même façon que la peur de mourir n'est pas la même chose que la peur de la mort. La peur de mourir, c'est la peur de ce qui va se passer quand vous vivrez votre mort, si j'ose dire. La peur de la mort, c'est la peur de ce qu'il y aura après. Bon. La peur de tomber, tout le monde la ressent. D'ailleurs, c'est elle qui sauve la vie. Sans cette peur, tous les alpinistes seraient morts. La peur du vide, c'est autre chose parce qu'on peut la ressentir même quand on n'a pas peur de tomber. Et puis le vertige, c'est encore autre chose. Par exemple, moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir éprouvé le vertige en montagne, y compris dans des situations un peu critiques, disons. Par contre, si vous me mettez sur un balcon au cinquième étage d'un immeuble, si je m'accoude à la barrière, je serais pas à l'aise. J'aurais peur d'être poussé, en fait. Et j'aime pas trop ça, alors qu'en montagne, je n'éprouve pas ce sentiment de vertige.
Le vertige, le vide, autour de la question comment faire le vide, et si c'était les artistes qui en parlaient le mieux, vous citez Gérard Manset dans cet essai sur le vide, Étienne Klein. On écoute Il voyage en solitaire sur RFI.
Il voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire, et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre.
Gérard Manset. Il voyage en solitaire sur RFI. Nous sommes en compagnie du physicien, philosophe et alpiniste Étienne Klein, qui s'est lancé dans le vide, ce qui est sans être tout à fait, titre de votre dernier essai Étienne Klein, autour de la question pourquoi faire le vide et surtout comment. Je propose un nouvel éclairage, pas vide du tout mais plein de sens, c'est celui du philosophe Frédéric Worms, qui est aussi membre du comité consultatif national d'éthique, on l'écoute.
Bonjour Étienne, je n'ai pas encore lu ton livre, mais je me demande si pour toi comme pour moi, le vide n'est pas la condition de la relation entre les choses, ce qui permet aux choses d'être en relation, et si c'est pour ça qu'il existe aussi entre les particules et entre les corps, comme il existe entre les humains. Évidemment, ce n'est pas entièrement du vide, ce qui nous sépare, mais c'est aussi ce qui nous permet de nous relier. Donc le vide est-il la condition de la relation ?
Question du philosophe Frédéric Worms pour vous, Étienne Klein.
Alors, je l'entends de deux façons. Il y a la question de la relation entre les humains. Et je pense qu'elle suppose en effet qu'une certaine distance soit maintenue, parce que la relation, ce n'est pas la fusion.
Donc, vide, l'espace.
Il y a des moments de fusion, mais la vraie relation, elle consiste à échanger par la médiation de quelque chose qui va traverser l'espace qui nous sépare. Donc là-dessus, je suis d'accord. Et puis alors, ce qu'il a dit au tout début de sa question, c'est incroyable qu'il l'ait dit en tant que philosophe, parce que c'est parfaitement vrai en physique. Les particules réelles, électrons, etc., elles interagissent, d'après la physique quantique, en échangeant des particules virtuelles. Donc les particules qui constituent le vide quantique sont les ingrédients des relations physiques entre les particules réelles.
C'est-à-dire que du vide naît le reste, ou agit le reste.
Les interactions sont un effet du vide. Donc les interactions entre particules sont un effet du vide. Autrement dit, les particules virtuelles sont ce que transportent les interactions lorsqu'elles lient une particule à une autre particule. Et donc ce qu'il a dit, à condition de remplacer le mot vide par vide quantique, est exactement vrai dans le monde de la physique microscopique.
Ce qui veut dire qu'au-delà des mots, pour le coup, les intuitions parfois des artistes, des philosophes peuvent rejoindre des réalités, notamment dans des domaines tels que la physique quantique, sans partir dans des délires. Hein,
absolument, ça ne veut pas dire qu'ils pensent la même chose, mais en tout cas, ils disent des choses qui font résonance. Et l'exemple le plus frappant, c'est Blaise Pascal, au XVIIe siècle, qui écrit une lettre au Père Noël. Alors, ce n'est pas le Père Noël auprès duquel on vient déposer une liste de cadeaux pour le 25 décembre. C'est le révérend Père Noël qui avait écrit un livre qui s'appelait « Le plein du vide ». Et Blaise Pascal contestait les arguments de ce jésuite. Et il termine l'une de ses lettres en lui disant « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière ». C'est-à-dire que le vide, ce n'est pas le néant, c'est entre le néant et la matière. Ce n'est pas non plus complètement la matière, mais il est intermédiaire entre les deux. Et ça, c'est quand même une intuition absolument géniale. Et si vous remplacez le mot « vide » qu'utilise Blaise Pascal dans cette phrase par le mot « vide quantique », ça tombe pile.
Ça tombe pile. Alors, qu'est-ce que le physicien quantique, hein, parce que vous n'êtes pas que philosophe ou alpiniste, qu'est-ce que vous retirez de cette fréquentation, de ce saut, de cette plongée dans le vide, dans tous les vides, hein, les vides des philosophes, le vide des mots, le vide du vertige et le vide quantique?
Alors déjà, je pense qu'on l'a senti dans notre échange, la question du vide, elle contient en germe tous les problèmes de la physique contemporaine. Jusqu'à contenir des problèmes de vocabulaire qui font qu'on est un peu perdu selon qu'on parle du vide de telle théorie ou de telle autre. C'est le même mot à chaque fois qui désigne des choses différentes, ce qui fait que parfois les débats sont inutilement très confus.
Donc il faudrait déjà plusieurs mots pour le vide,
parce que si le vide quantique est différent du vide de la relativité générale, il faudrait les distinguer par des mots différents. Sinon, on a l'impression qu'on parle de la même chose alors qu'il s'agit d'entités physiques qui ont des propriétés complètement différentes. Ensuite, on voit bien que notre pensée du vide, elle n'est pas liée simplement aux travaux des physiciens. On n'en a pas parlé, mais l'expérience de l'ennui. S'ennuyer, c'est faire l'expérience d'un certain vide existentiel.
Ça nous manque peut-être un peu aujourd'hui, d'ailleurs. Peut-être.
Peut-être. En tout cas, notre attention est capturée de mille manières, de sorte qu'on a du mal à être en repos par rapport à soi-même. On est constamment diverti, volontairement ou non. Et sans doute que ça nous éloigne du vide dont parlait Blaise Pascal et dont il pensait qu'on voulait le fuir par le divertissement. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire, je trouve, que ce soit le même philosophe physicien Blaise Pascal, qui est mort à 39 ans. À 23 ans, il s'occupe du vide en physique. Il écrit un traité du vide. C'est lui qui va démontrer l'existence du vide par des expériences à la Tour Saint-Jacques à Paris. Et il va démontrer que la nature n'a pas horreur du vide. Mais un peu plus tard, quand il écrit les pensées, il écrit un chapitre sur l'ennui. Quand il parle de l'ennui, il confond d'ailleurs le mot néant et vide comme si c'était la même chose, alors qu'auparavant il les avait bien distingués. Et il dit en fait, non, c'est l'homme qui a peur du vide. C'est l'homme qui a le vide en horreur et non pas la nature. Et donc on pourrait dire, pour résumer, par analogie, que finalement, la pression atmosphérique qui empêche le vide de se manifester dans la nature est l'équivalent du divertissement dans nos vies qui nous fait fuir le vide dans nos existences.
qui nous empêche de tomber, qui nous empêche de toucher ce vide intérieur qui nous fait si peur. Et pourtant, on ne tourne pas dans le vide. Vous n'avez pas tourné dans le vide en travaillant autour du vide et sur le vide, Étienne Klein.
Moi, je n'ai pas de souvenir d'ennui. J'ai l'impression que ce sujet, il est vertigineux, c'est le cas de le dire. Et quand je l'ai abordé à la suite de cette discussion avec Alanine Lacroix, ma voisine, je pensais que j'allais vite le circonscrire, le sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une question aussi profonde que la question du temps qui m'avait occupé pendant pas mal d'années.
Donc le vide va encore vous occuper pendant...
Peut-être qu'il y aura un tome 2.
Autour du vide.
Peut-être.
Ah ben, vous revenez pour nous en parler de ce vide-là. Merci infiniment, en
merci
tout cas,
vous.
D'être venu en direct partager ce qui est, sans être tout à fait, titre de votre essai sur le vide à lire absolument aux éditions Actes Sud. Je vous dis bientôt, à bientôt, Étienne Klein, pour d'autres vides ou pour d'autres matières à contredire, qui était le titre de votre précédent essai. Et puis on se quitte avec un petit cadeau pour vous. On ne pouvait pas se quitter sans les Stones.
Ah,
pas possible. Et quand je vous ai parlé du vide et des Stones, vous m'avez cité ce morceau-là. Psychédéliquement vide, 2000 light years from home. C'est pour vous, Étienne Klein.
Merci beaucoup.
Light years from home, les Stones sur RFI autour de la question. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, en compagnie de youtubeuses qui ne manquent ni d'humour ni d'imagination autour de la question comment faire passer sa science sur le net. Rendez-vous demain sur les bonnes ondes de RFI. Merci de votre curiosité sans cesse renouvelée. Merci de votre interactivité, notamment sur nos réseaux, chers amis auditeurs. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.